propulsé par mademoiselle.com.
Ah ouais.
Ah, 20 ans. Qui es-tu à 20 ans? Est-ce que t'es une vieille ado? Une jeune adulte? C'est quoi ta place dans le monde? Avoir 20 ans, ça représente quoi pour toi? Sûrement pas la même chose que pour moi, que pour lui ou que pour elle. Bienvenue dans 20 ans d'âge, le podcast qui donne la parole aux fraîchement débarqués dans la vingtaine. Ici, on rassemble des histoires et des expériences toutes riches et différentes des gens de 20 ans. J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine deux fois par mois. Si toi aussi tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast@mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ». Salut, c'est Alix et cette semaine, je te présente Lila. Lila est une jeune vingtenaire qui a soif d'aventure. Avant d'entrer au lycée, elle a décidé de partir un an aux États-Unis dans une famille d'accueil, mais n'a pas vraiment vécu le rêve américain. Elle te raconte cette expérience folle au bilan mitigé mais enrichissant et parle de son retour en France qui n'a pas non plus été de tout repos.
Je m'appelle Lila, je suis en prépa littéraire à Tours.
Ouais.
Voilà, j'aime bien la danse.
Et t'as 20 ans?
Et j'ai 20 ans, ouais, j'ai 20 ans. Je viens juste d'avoir 20 ans, enfin en avril. 20 ans confinés.
Waouh, 20 ans confinés, mais alors c'est quoi? Ça se passe comment 20 ans confinés?
Bah, ça se passe comme en primaire, quand t'es tout seul avec tes parents chez toi.
Oh non!
Et ta sœur. Et c'est sympa, ouais. Mais ouais, je suis rentrée chez mes parents parce qu'ils ont une maison. Enfin, on habitait à la campagne.
Ouais,
donc il y avait le jardin, la grande maison, tout ça, c'était chouette. Puis ils me faisaient à manger pendant mes concours. Donc ça, c'était
ça, c'est le top.
Et puis, donc c'était un peu bizarre parce que tu vois pas tes amis, t'as personne qui vient te voir. Et donc on a fait des Skype, des Zoom.
Oui, bien sûr.
Mais ouais, c'était vraiment juste avec ses parents. Et en plus, on s'est déconfiné en mai, quoi, donc tu fêtes pas ton anniversaire.
Bah, un mois après, c'est toujours bizarre, parce que j'en parle par expérience, parce que moi-même, j'ai eu 25 ans confiné, tu vois,
voilà.
En avril aussi, et ouais, t'es là, je vais m'acheter un fraisier pour manger solo, quoi.
c'est...
Mais bon, du coup, est-ce que t'attendais d'avoir 20 ans? Est-ce que c'était un truc que t'appréhendais? Est-ce que c'est un step pour toi dans ta tête, ou pas du tout?
J'attendais dans le sens où, pour moi, 18 ans, ça veut pas dire grand-chose. Enfin, pour moi, 20 ans, c'était vraiment la rentrée dans l'âge adulte. C'est là où t'es un peu plus indépendant, j'en sais rien, tu sors un peu, tout ça. Et en fait, comme c'était confiné, c'était, finalement, c'est comme si j'avais eu 17 ans, quoi. Ça n'a rien fait de fou.
Ouais.
Et ma mère, même, en fait, c'est plus pour ma mère, je crois que ça comptait 20 ans. Enfin, elle m'avait dit, ouais, 18 ans, mais 20 ans et tout. Et donc, j'avais gardé ça dans l'esprit. Et en fait, ça n'a rien fait.
Ça t'a rien fait,
ça m'a juste fait peur parce que j'ai pas l'impression que mon âge va avec... Enfin, que l'âge sur les papiers va avec mon âge actuel. Je pensais que quand j'aurais 20 ans, je serais grande.
Et oui, c'est toujours ce qu'on pense.
Je mesure toujours 1m53.
Et est-ce que tu te sens grande dans ta tête, ou t'es plutôt...
Je me sens pas immature, mais vraiment, en fait, j'ai des cousins qui sont tous plus grands. Et pour moi, quand j'étais au collège, c'était mes cousins qui étaient dans la vingtaine.
Ouais.
Et là, j'y suis. Et c'est pas l'image, enfin, je me représentais pas ça comme ça, quoi.
Bah, je sais pas toi, mais moi, je me suis toujours dit, le jour où j'ai eu 20 ans, je me suis dit, mais je croyais qu'à 20 ans, on savait ce qu'on faisait dans la vie, quoi. Enfin,
ouais,
genre, on avait un peu une idée de ce qui se passe. Et en fait, pas.
Bah non.
Et je suis en train de me dire, mais en fait, peut-être que je l'aurais jamais. Et de retourner chez tes parents pendant le confinement, qu'est-ce que ça a fait? Parce que j'imagine que t'as quand même grandi. Quand t'as déménagé de chez tes parents, puisque t'habites à Tours, c'est ça?
Ouais.
Et qu'est-ce que ça a fait de revenir un peu au bercail?
En fait, je reviens quand même le week-end.
Ok.
J'étais la seule des trois enfants à revenir le week-end, comme j'habite pas loin, finalement. Et puis ça me permettait de voir des gens le week-end.
Oui, tes amis qui sont...
Ah non, c'était mes parents, parce que comme je suis en prépa, tu vois, je peux pas trop sortir pendant la semaine. Et donc, rentrer le week-end, c'était revoir mes parents, être avec des gens, quoi. Et donc, ça m'a pas trop... Je sais pas comment dire, ça m'a pas choquée. Il n'y a pas eu de gros changements, mais quand même, c'est l'obligation de faire des choses avec sa famille. Et en plus, ma mère voulait vraiment en profiter pour qu'on fasse du sport ensemble et tout. Et au début, c'était chouette, sauf qu'au bout d'un moment, faire ensemble à manger le midi, le soir, à la même heure, faut descendre à la cuisine, faire du sport ensemble. Et il n'y avait pas d'obligation pour faire du sport ensemble, mais il y avait quand même les repas qui revenaient. Il fallait tous qu'on soit là pour le même repas et préparer en même temps. Et ça, j'avoue que à force, ça pesait un peu. Ouais.
Bah oui, oui, on oublie vite. Et puis surtout, c'est une liberté énorme, quoi, de vivre seul. Et après, quand tu rentres chez tes parents le week-end, c'est cool, mais tu restes un invité.
Ouais.
Enfin, une invitée, du coup. Mais quand tu retournes vivre avec eux, c'est un peu ce retour à l'adolescence qui n'était pas...
Oui, c'est ça. Et vivre avec ma sœur, en plus. Parce que comme elle est partie, enfin, c'était la première fois qu'on était... En plus, sans qu'on ait nos activités
parce que ta sœur, elle a quel âge?
Elle a 18 ans.
Ok.
Donc, on a que... Enfin, en fait, on a un an et demi d'écart.
Et c'est toi l'aîné ou...
Ouais. Oui, parce que j'ai 20 ans.
Ouais. Mais oui, mais t'as un frère
ouais.
Ou...
Ah non, non. Oui, du coup, enfin, je suis plus grande que ma sœur, mais mon frère aîné a 22 ans.
Ah, donc t'as un frère aîné, d'accord.
Ouais,
okay. Ok, ok. Et comment tu gères justement cette relation avec tes frères et sœurs? Est-ce que ça a changé depuis l'adolescence ou est-ce que tu trouves que ça évolue vers le bien, normalement, ou vers le pire?
Alors... Comme je t'ai dit dans le mail, moi je suis partie aux États-Unis quand j'avais 15 ans. Et donc à partir de 15 ans, j'ai plus vécu chez moi pendant plusieurs mois d'affilée. Et c'est aussi le moment où mon frère est parti, lui, de Tours, parce qu'il est parti dans ses études. Et il est allé à Lille. Et donc, en fait, depuis que j'ai 15 ans, j'ai pas vécu avec mon frère vraiment, parce qu'il revient très rarement. Enfin, il est à Lille, nous on est dans le centre de la France, voilà. Et donc avec mon frère, je dirais qu'on est moins proches finalement parce que voilà, on n'a plus le quotidien.
Ouais.
Et puis il est pas trop du genre à répondre au téléphone, tout ça. Et donc on n'a plus l'occasion de parler énormément. Quand il est là, on s'entend super bien, mais voilà, on s'est un peu distancé. Alors que ma sœur, comme du coup nous, on se retrouvait toutes les deux au lycée, à rentrer ensemble le week-end à la maison parce qu'elle était aussi à Tours pendant la semaine. Avec elle, je pense qu'on s'est rapprochés et qu'on a plus appris à se connaître. Donc finalement, je suis passée de peut-être un peu plus proche avec mon frère à un peu plus proche avec ma sœur. Mais ça s'est jamais détérioré ni rien.
Ouais, ok, je vois, oui, juste l'éloignement finalement.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, t'as parlé brièvement de ce voyage aux États-Unis, mais moi j'aimerais bien que tu m'en dises plus. Comment ça t'est venu, cette idée de partir? T'es partie un an, c'est ça?
Ouais.
Et comment t'as décidé de partir? Est-ce que c'est toi qui as décidé? Comment ça s'est passé? Enfin voilà.
En fait, je pense que j'ai toujours eu envie de voyager, de partir à l'étranger, d'apprendre des langues. Je voulais absolument apprendre l'anglais.
Ouais.
Sauf que au collège, enfin, je travaillais, j'avais des bonnes notes, mais je trouve que ça suffisait pas. Et j'ai entendu parler d'enfants ou d'adolescents qui partaient comme ça à l'étranger. J'avais trop envie. Et c'est vraiment en cinquième où c'était une année sympa, mais sans plus, quoi. Je me suis dit, oh, faut vraiment que je parte.
Waouh, en cinquième, t'as quoi? T'as 12 ans?
Ouais, c'est ça. Et au début, je pensais partir en fin de troisième pendant quelques mois.
Ouais.
Et puis finalement, c'était un peu compliqué, etc. Et en cherchant les organismes qui faisaient ça, j'ai trouvé que je pouvais partir à 15 ans. C'est plutôt 16 ans d'habitude, mais là, à 15 ans, cet organisme-là était OK. Et partir un an dans une famille, pas comme jeune fille au père, mais dans un lycée.
Ouais.
La contrepartie, entre guillemets, c'est que tu perds ton année. C'est-à-dire que t'es pas là-bas pour étudier, pour avoir ton année. Vraiment, tu reviens et tu redoubles.
Ok, ouais.
Mais t'es dans une famille qui t'accueille gratuitement, en tout cas aux États-Unis. Donc, nous, on a payé le voyage, l'organisme, etc. Mais voilà, c'est vraiment pour l'échange culturel.
Une famille d'accueil. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient à peu près ton âge dans la famille d'accueil ou c'était...
J'ai fait deux familles d'accueil parce que la première, ça s'est pas très bien passé, donc j'ai dû changer. Et dans aucune des deux, la première, ils avaient des enfants en primaire à peu près. Et la deuxième, ils avaient un bébé. Mais moi, j'adore les bébés, donc ça m'a pas dérangé.
Et du coup, comment ça s'est passé cette année-là? Enfin, c'est quand même fou de se dire à 12 ans que t'as envie de partir. T'as aucun problème à partir longtemps, en fait, loin de ta famille, loin de tes proches. T'es quelqu'un de un peu pas sans attache, mais qui se détache facilement.
Ouais, je crois que mes parents, ils m'ont donné ce truc-là de pouvoir me détacher sans problème, partir sans problème. Mais j'avoue que j'avais peur.
Et,
mais, ça, mais ça, j'osais pas trop le dire parce que quand, avant de partir, le mois avant de partir, c'est l'été de mes 15 ans, je viens de finir la troisième, j'ai eu mon brevet. Mmh. Et là, tout le monde te dit, oh, c'est fou et tout, tu dois être trop content, tu dois être pressé. En fait, je ressentais pas tout ça, j'avais un petit peu peur et c'était tout. Et donc après, l'année s'est bien passée. Mais c'est pareil, on nous disait que j'allais changer, que j'allais ne plus être la même personne quand j'allais rentrer. Et je crois pas que ça m'ait changé vraiment. Même ma mère avait peur de ça, que je revienne et que je sois plus la même.
Mmh.
Et j'ai pas changé. Par contre, évidemment, j'ai mûri. J'ai dû gérer mon argent, me faire à manger, parce qu'aux États-Unis, tu te fais à manger, quoi. C'est pas tes parents, t'as pas de repas ensemble.
Oui. T'étais où d'ailleurs?
Au Texas.
Au Texas!
J'avais
oh là
pas
là.
Choisi. Hein.
Ah oui, la vraie expérience américaine, quoi. C'est vraiment. Ouais. Ok, ok, d'accord. T'étais à Austin ou.
Dallas. Enfin, dans la banlieue de Dallas.
Ok, ouais. Putain, trop bien. Et ok, donc t'as appris à te faire à manger chez des gens finalement.
Ouais, et ça c'était galère parce qu'ils ont pas les mêmes ingrédients que nous, quoi.
Bah ouais.
Et donc ma mère, elle m'envoyait des recettes, mais c'était pas forcément ce que ma famille achetait. Et puis, enfin, je savais faire à manger, je savais le faire, mais se faire à manger tous les jours,
ouais.
Même le midi, parce que le midi, soit t'achètes, ouais. Mais c'est genre hamburger tous les jours, quoi, tu vas être chouette. Et donc, non, je mangeais, enfin, fallait que je me fasse à manger le soir et que j'en emporte le midi. Et donc, franchement, c'était pas facile.
Et pourquoi ça s'est mal passé, du coup, avec ta première famille?
Parce que, alors, eux, ils étaient mexicains.
Okay.
Et moi, ça me dérangeait pas. Je me disais, oh là là, je vais revenir. En fait, je vais être trilingue. Je vais apprendre l'espagnol en ouais. même temps. Sauf que le père d'accueil voulait pas. Il m'a dit qu'il voulait américaniser ses enfants. C'est-à-dire que sa femme, elle parlait mieux espagnol qu'anglais. Et il préférait qu'elle leur parle en anglais. Parce
d'accord.
qu'il voulait absolument que ses enfants s'intègrent ouais, dans ouais. la société. Alors que lui avait grandi aux États-Unis. Enfin, voilà. Et donc. Il avait cette culture mexicaine de c'est les femmes qui font à manger, c'est les femmes qui font
yes.
la cuisine. Et donc, ça m'arrivait souvent de parler avec lui. Moi, j'étais en train de faire la vaisselle de la journée, puis lui, il faisait rien, quoi.
Ouais.
Et c'était pendant les attentats de novembre 2015, ouais. j'étais là-bas. Et ça m'a vraiment touchée parce que pour vous, c'était la nuit, mais moi, c'était pendant la journée.
Mmh.
Et j'ai reçu des messages, 150 morts à Paris, machin. Et j'ai eu super peur. Et quand il est venu me chercher dans la voiture, parce que j'étais vraiment paniquée, je mmh. comprenais pas. Et là, il a commencé à me tenir des propos racistes. Et donc, moi, je lui ai donné mon point de vue. Et il a fini la discussion en me disant, de toute manière, t'as 15 ans, tu sais rien à la vie.
Ah, il a l'air top, cet homme.
Ah ouais, il était top. Raoul.
Raoul. Eh ben, on l'embrasse. Bisous, Raoul.
On l'embrasse, Raoul. Et donc, je m'entendais... Mais depuis le départ, je m'entendais bien avec la famille, mais sans plus, il n'y avait pas d'atome crochu énorme. Le truc, c'est qu'il t'accueille gratuitement. Et donc, l'organisme ne voulait pas me changer de famille. Parce que si tu changes de famille, c'est qu'il faut qu'il se passe un truc de grave ou alors que ta famille ne veulent plus de toi. Et dans ce cas-là, c'est OK parce qu'eux t'accueillent gratuitement. Mais moi, normalement, je ne suis pas censée dire « En fait, cette famille ne me va pas.
Mmh. »
Et donc là, l'organisme voulait que j'essaye de trucs. Enfin, il m'envoyait des feuilles en mode « Il faut faire des cadeaux à sa famille, il faut être gentil et tout. » Mais c'est déjà des choses que je faisais.
Mmh.
Mais le truc que lui me dise que j'avais 15 ans, que je ne savais rien à la vie, que j'étais une fille, tout ça... Ça faisait que finalement j'étais assez déprimée, mais je m'en rendais pas compte. Et donc là, ma mère, après sa voiture, elle est allée à Tours et elle a dit faut vraiment que Lila change de famille. Et en fait, il voulait pas parce qu'il y avait pas trop de famille dans le coin.
Ouais.
Et donc, c'est ma prof d'anglais du lycée qui m'a pris chez elle.
Ah, trop bien!
Ouais.
Oh, j'adore les profs aux États-Unis,
bah
ils
ouais.
sont incroyables.
Ils ont envoyé un mail à tous les profs et je pense qu'ils ont dû leur dire faudrait lui offrir un vrai Noël américain ou je sais pas quoi. Et quand moi j'ai su qu'ils avaient envoyé ce mail-là, j'ai tout de suite pensé à elle. Et 3 heures après, j'avais un mail qui me disait « Ta prof d'anglais va te prendre chez elle ».
J'adore ! C'est trop une nouvelle adoption, tu sais.
Ouais.
C'est trop bien. Et du coup, t'as bien vécu cette deuxième moitié d'année,
ouais,
du coup ?
Parce qu'en plus, elle, comme elle était prof dans mon lycée
ouais.
et qu'elle avait grandi là, etc., elle savait mieux. Elle me proposait d'inviter des amis. Elle m'emmenait à des trucs. J'ai fait partie de l'atelier théâtre, enfin du club théâtre.
Trop bien.
Et donc, elle s'organisait avec ses collègues, avec les élèves pour qu'ils me ramènent. Alors que dans l'autre famille, eux, ils ne m'ont pas permis de vraiment me faire des amis. C'est super dur de se faire des amis. Et en plus, moi, je ne pouvais pas conduire, ni rien. Et alors que dans la deuxième, comme elle était prof, elle savait comment ça fonctionnait. Donc vraiment, elle était là pour me dire, va à ce club, va à cette soirée et tout. Donc,
Ok, et donc t'as réussi finalement à te faire des amis, puisque les différences culturelles avec les Américains sont assez grandes, enfin entre Français et Américains.
Et
je crois que j'ai lu un article comme quoi les Américains étaient plutôt une personnalité peach, où ils étaient plutôt à l'extérieur, genre très sympa et tout. Mais c'est difficile d'aller en profondeur, et que les Français étaient un peu noix de coco où c'est difficile de percer, mais au milieu il y a un fruit, quoi, tu vois.
C'est exactement ça. Et en plus de ça, le lycée aux États-Unis, enfin en tout cas là où moi j'étais, on avait une heure et demie de cours. En fait, on avait quatre cours d'une heure et demie, et t'as pas de récré. Donc ouais. En fait, tu passes d'une classe à l'autre, et en plus, si t'es pas en classe, tu sais, t'as ton emploi du temps personnel. Et donc, tu passes d'une classe à l'autre. Alors parfois, tu retrouves des personnes, mais en cours, tu parles pas tant que ça. T'as pas de récré, et à midi, c'est qu'une demi-heure pour manger. Et donc, si tu fais pas de club, tu peux pas rencontrer les gens. Et tout le monde m'aimait bien, tout le monde savait qui j'étais, parce que j'avais des lunettes rouges, j'étais la petite française.
La French
voilà,
girl.
Exactement. Mais j'avais pas de vrais amis. Mais vraiment, ce qui m'a aidée, c'est que j'étais obligée d'aller en anglais, deuxième langue. En fait, normalement, c'est la classe pour les gens qui immigrent. Parce qu'au Texas, il y a beaucoup d'immigrants. Et en fait, là, dès le début de l'année, j'ai pu me faire des amis déjà. Et après, c'est vraiment le théâtre, finalement, qui m'a aidée à...
Oui, bah oui, j'imagine que
ouais,
ça rapproche...
Ouais, le théâtre, la danse, ça aide à se faire des potes, quoi.
Mais moi, je me souviens... Enfin, moi, du coup, j'étais au Canada. J'ai passé 3 mois au Canada, au lycée. Et je me souviens de... m'être fait pote avec une meuf en cours, tu vois, et je la croise dans les couloirs le lendemain et je lui fais, elle me regarde même pas, et genre j'étais là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pensé qu'on était amis.
Ouais, non, c'est d'un ça, coup. Ils disent hi, et puis ouais, après ils t'invitent pas, toi t'as pas de voiture, tu peux pas les inviter quelque part, donc.
Oui, bah c'est une culture ultra différente, enfin c'est pas mieux ou moins bien, mais du coup c'est assez dur de se mettre dans le moule. Et du coup, pour l'anglais, comment t'as fait? Est-ce que ça t'est venu assez vite, ou est-ce que t'étais un peu sans repère, perdu?
Justement, c'est marrant parce que j'ai retrouvé, là il y a pas longtemps, je triais ma boîte mail, des essais que j'ai écrits. En début d'année, que j'avais un en septembre pour le cours d'anglais, un truc comme ça, et j'en ai retrouvé un que j'avais écrit en mai. Et en fait, j'ai pleuré parce que quand j'ai lu la différence entre les deux mails, c'était la première fois que je me rendais compte de mon progrès en anglais. Enfin, c'est fou. Et bah, quand je suis partie, j'étais forte en anglais, mais forte au collège, quoi. Donc, t'apprends ton vocabulaire, t'as 20 sur 20, c'est super. Et je me rappelle qu'au début, je comprenais rien. Il me parlait. À
en
midi,
plus, au Texas, il y a un sacré accent, non?
Bah, ça va.
Ça va?
Enfin, oui, il y a un accent, mais franchement, ça va. C'est pas plus dur que les gens qui parlent british très net. Parfois, c'est pas mieux. Mais je me rappelle du premier midi, des gens m'avaient proposé de venir à leur table, trop cool. Mais je rigolais, mais je comprenais rien. Je souriais, j'étais en mode yes. Voilà, et je captais rien. Et justement, là, j'ai rencontré une amie cubaine ce jour-là, qui, elle, comprenait mieux que moi. Et je me disais, oulala, ça va être long. Et en fait, je me rappelle pas avoir galéré, mais je sais que ça m'a pris du temps à comprendre. Mais je crois pas que la langue était une vraie barrière. Enfin, je me rappelle pas de ça, en tout cas, c'est pas ce qui m'a marqué.
Ouais.
Mais j'ai progressé et ça...
Donc c'est plus les différences culturelles en fait qui t'ont marqué et qui t'ont...
Dans l'éducation aussi, parce que dans ma première famille, ils élevaient leurs enfants d'une manière, puis dans la deuxième aussi. Et moi, bah, j'avais vécu qu'avec mes parents.
Ouais, bah oui.
Et là, de voir comment eux éduquent leurs enfants, parfois il y a des trucs... C'est... Oh mais non, mais comment ça? Le laisser avec une tablette toute la nuit, tout ça, c'est pas bien. Le faire dormir devant des films d'horreur à 5 ans, non. Sauf que tu peux rien dire, enfin, t'as 15 ans, quoi.
Bah ouais, c'est clair.
Mais la première mère m'a dit, grâce à toi, Lila, j'achète des fruits pour mes enfants.
Ah, waouh.
Et je me dis, bon, bah, si j'ai fait ça déjà pour eux, c'est pas mal.
C'est clair. Et du coup, comment ça s'est passé, ce retour en France? Parce que j'imagine qu'en un an, du coup, t'as dû t'acclimater de fou, et il faut retourner en France, et donc tu retapes la seconde, c'est ça?
Ouais. C'était un peu dur déjà parce que finalement j'ai eu 4-5 mois avec la première famille et seulement 5-6 mois avec la deuxième. Et donc c'était dur parce que j'ai vraiment kiffé les 6 derniers mois, quoi.
Ouais.
Et donc j'ai pas eu 10 mois de kiff. Et donc c'était un peu dur de rentrer. Avant on a fait un petit voyage à New York avec ma famille d'accueil qui m'a emmenée. Et donc j'ai dû repousser un peu ma date de retour. Et ma mère en France m'a dit mais Lila, mais tu vas pas rester là-bas tout le temps et tout. Et elle commençait à flipper. Et en fait je suis rentrée et ça s'est super bien passé. J'avais pas changé ni rien. J'avais pris du poids. Ouais. Ça a été très très dur.
Et pourquoi ça a été dur ?
Parce que je suis partie. On nous avait déjà dit que souvent les gens prenaient du poids et ça se voyait. On avait vu des petites vidéos que des élèves avant avaient fait.
Oui, parce que t'as une alimentation super différente.
Ouais, puis tu fais pas de trajet à pied. Tu vois, là, dans Paris, je viens de marcher de Montparnasse à ici. Enfin, ça se fait quoi. Tu vas à vélo, tu vas. Mais là-bas, tu prends la voiture. Et donc, j'avais plus ces trajets quotidiens. Je faisais un peu de sport, mais on n'en faisait pas tant que ça finalement. Et puis, les quantités sont énormes. Et donc, et puis, comme j'étais en plus déprimée pendant 4-5 mois.
Puis t'étais au Texas
début,
aussi. Qui est... Enfin, moi, j'ai des vieilles rumeurs du Texas, parce que bah, du coup, ma Corresse, son père était texan. Et elle me disait, au McDo, quand tu prends un large, enfin, quand tu prends un menu XL, quoi, t'as un litre de coca, quoi.
Ouais.
C'est un délire. Enfin,
t'as du sucre dans le pain aussi.
Ah ouais, la vache.
J'essaie d'acheter du granola, mais c'est avec du sucre. Ouais. Les fruits secs, t'as du sel autour. Enfin, voilà. Et donc, j'ai pris du poids. Je sais pas combien j'en ai pris, pour être honnête, mais bon, ça se voyait. Et voilà. Et ma mère m'avait dit, bon, t'inquiète pas, de toute manière, c'est pas grave. Et en fait, en fin d'année, elle a commencé à paniquer et elle me le disait. Et donc, moi, je le voyais moi-même, ça me faisait peur. Ma mère me le disait, et vraiment, ça a été super dur.
Ça te faisait peur vis-à-vis de ta santé ?
Non, c'était vraiment... c'était l'image que je renvoyais. Pas ma santé, parce que j'en ai pas pris énormément. Je suis pas... Enfin, voilà, je suis pas en mauvaise santé. Je savais que j'allais sûrement les reperdre, mais vraiment, l'image que je renvoyais, le fait d'avoir pris du poids, pour moi, déjà, c'était un échec, parce que je pensais réussir à ne pas en prendre. Et puis, avec tout ce truc de les filles doivent être minces, tout
ouais,
ça,
bah oui,
t'as 15 ans, et tu rentres, et t'as pris 5-10 kilos, les gens le voient, il y en a certains qui te font des remarques, et ça a vraiment été dur pour moi. Et quand j'étais au collège, je suis pas la personne super fine, mais on va dire normale entre guillemets, et je suis revenue et j'étais la personne un peu grosse qui doit prendre du poids, quoi, alors que j'étais pas si grosse que ça.
Oui, mais c'était l'image que t'avais de toi qui avait changé. Tu te voyais plus pareil dans le miroir, j'imagine, et puis ce que tu renvoyais aux autres, c'était plus non plus la même chose, en fait.
Des vêtements qui sont trop petits quand tu rentres, que tu peux pas remettre tout de suite, et puis avec ma sœur, on n'a pas du tout la même corpulence. Mais d'habitude, c'est ma sœur qui avait un peu plus de ventre que moi. Et là, je suis arrivée et c'était moi qui en avais plus qu'elle. Donc moi, je le savais, mais en soi, avec ma sœur, on essaye de pas trop se comparer. Mais ma mère, quand on a pris rendez-vous chez le médecin, à la rentrée, et qui nous pèse, et que là, je sais plus, on faisait le même poids ou moi, j'étais plus grosse. Et ça, vraiment...
Ça
en fait,
dérangé,
c'est les yeux de ma mère.
Ça a dérangé
la vision de ma mère. Alors, je dis pas qu'elle était méchante avec moi, mais juste les petites réflexions. Et toi, tu les prends et tu te dis bon. Donc voilà.
Ok.
Donc c'était plus ça, le poids.
C'était vraiment la chose qui t'a le plus dérangé en rentrant, en fait.
Après, avec mes amis, ça a pas trop changé non plus, franchement.
Mais pourtant, t'avais quand même un an d'écart avec eux maintenant, vu qu'ils étaient tous en première et toi, t'étais en seconde, ça a
mais
pas trop
fait,
changé.
Mais en fait, je suis pas allée dans mon lycée de rattachement. Donc ça a aidé, parce que sinon je me serais retrouvée avec les amis de ma sœur, comme elle a un an de moins.
Ah.
Ça aurait été dur, mais je me suis retrouvée dans un autre lycée à Tours, où il y avait 2-3 personnes qui étaient potes avec ma sœur au départ, mais ça m'a pas dérangée, je les aimais bien. Et en fait, quand t'arrives dans un nouveau lycée, les gens te connaissent pas, t'as qu'un an d'écart, en fait ça a pas fait la différence. Mais je crois que j'étais plus réservée. Déjà, je mettais beaucoup de mots anglais dans mes copies. Ça, c'était un peu la catastrophe.
Ah ouais.
Je savais plus parler quand tu parles et puis t'as les mots qui viennent pas. Et ça m'arrive toujours. Et c'est un peu gênant quand tu fais « Ah, excusez-moi, je sais plus le mot en français.
Ouais. » Et les gens te prennent pour la pire.
C'est ça.
Mais en vrai, c'est vrai, ça arrive vraiment. Et du coup, moi, j'avais remarqué ça quand j'étais partie aussi. J'avais mon humour qui avait changé aussi. Que j'ai repris finalement français au fur et à mesure, mais l'humour en fait change vachement, je trouve, en fonction des cultures. Et du coup, est-ce que t'as pris l'humour américain ou t'as gardé quand même l'humour?
Non, ça je crois pas, parce que l'humour est très subtil, je trouve, aux États-Unis, en tout cas les personnes autour de moi. Et déjà, je pense pas que je le connaisse, enfin, je pense pas que je captais à chaque fois, je pense que je rigolais parce que voilà.
Tu connais le rire de l'expat qui est comme ça.
C'est ça.
Yes.
Mais j'avais pas assez d'éléments de culture américaine, je pense, pour ramener ça. Mais comme ils sont réservés et qu'ils sont pas proches physiquement, Tu vois, ils se font pas la bise. Oh, ça me manquait tellement, ça, la bise.
Ah ouais, ça t'a manqué.
Et justement, mon amie cubaine, elle faisait la bise. Au Cuba, on se fait la bise. Et donc, quand on se voyait, on se faisait la bise. Genre, vraiment,
trop
on
bien.
Était trop heureuses. Et ça, je sais, quand je suis rentrée, je prenais ma distance avec les gens. Je leur laissais leur bulle de distance qu'on laisse aux États-Unis, mais qu'on laisse pas forcément en France. Et alors que moi, j'étais très tactile à l'origine. Et en fait, ça a vraiment été une rupture. Même, je faisais beaucoup de câlins à mes parents et tout. Et en rentrant, bah,
ouais, ils sont...
ça m'a vraiment séparée physiquement.
Ils
ça,
sont assez c'est... pudiques, en fait, alors ?
Aux États-Unis, ouais. Tu te fais un hug, mais c'est genre vraiment
Une tapote
une sur l'épaule, quoi.
Ok. Tiens, c'est hyper intéressant quand même de... Bah voilà, t'as un an de ta vie qui est passé complètement dans un autre pays, en totale immersion.
Ouais.
Et la France t'a manqué, finalement, en fait.
Eh ben, je me suis découvert un amour pour la France et pour l'Europe.
Vraiment, allez, rentrons à la maison maintenant.
C'était ça. Bah, déjà, pendant les attentats, là, ça a été vraiment dur.
Oui, j'imagine.
Enfin, en plus, eux, ils n'en parlaient pas trop. Et moi, le lendemain, je me suis fait des boucles d'oreilles. Tu sais, il y avait des trucs qui traînaient sur les réseaux sociaux, des petites images, des illustrations. J'avais mes boucles d'oreilles. Je pense pas que c'était Pray for Paris, mais enfin, il devait y avoir un hashtag, un truc comme ça. J'avais mis ça.
Oui, puis en plus, plus t'es loin... plus l'information est...
Elle vient,
mais bizarrement...
Et puis ça les touche pas, quoi. C'est comme, là, j'imagine, au Royaume-Uni, l'attentat, il y a quelques jours. Si t'es du Royaume-Uni, ça te touche. Puis les Français, ils en ont entendu parler. Ils se sont dit, bon, c'est triste. Et voilà,
bah,
mais
plus
le lendemain,
c'est loin,
tu vis ta vie, quoi.
Mais voilà, c'est ça, ouais.
Alors que... Enfin voilà, donc ça c'était dur.
Alors que toi, t'étais pas chez toi et il se passe ça.
Et là, je me suis dit, vive la France, vive les Français. Non, ça je l'avais pas avant. Je m'en foutais d'être française, franchement, l'Europe, tout ça. Et là, j'étais vraiment fière d'être française et je revendiquais un peu ça, quoi, la culture française, la nourriture.
C'est trop drôle. Ouais, c'est trop marrant. Et tu m'as parlé aussi, donc. Très vite fait, là, mais je sais que t'en as parlé aussi dans ton mail, du fait que donc toi, t'aimes bien les bébés.
Oui.
Et à 20 ans, tu réfléchis déjà à la maternité, c'est ça ?
Ah ouais. Je sais pas d'où ça me vient. Je sais que j'ai toujours voulu être maman. Quand j'étais petite, j'aimais pas trop les jeux d'imagination. Vas-y, on est des fées, machin. Moi, c'était je prends le bébé, on joue à la maman, on joue à la maîtresse. C'était vraiment ça, les jeux d'imitation. Et je me rappelle de moi en primaire ou je sais pas quoi, donc ma sœur un an de moins que moi, je sais pas, on avait peut-être 5 et 6 ans, et ma sœur qui me dit de toute façon tu seras une bonne maman toi. Et j'avais vraiment ça, dès qu'il y a des enfants je joue avec eux, et quand les podcasts sont arrivés je les ai bénis, parce qu'en fait il y a plein de podcasts sur la maternité, surtout dernièrement, là il y en a de plus en plus qui sortent, et je sais pas pourquoi mais ça me passionne.
Ça te passionne alors que t'as pas d'enfant ?
Non, j'ai pas d'enfant et je me vois pas... Enfin, si, parfois, j'ai envie, je me dis, oh, si j'avais un bébé. Mais en soi, je sais que je suis pas prête maintenant, que ça va sûrement attendre. Mais
oui,
la
parce
qu'il
te faut une stabilité financière.
Ouais, j'ai besoin de cette stabilité. Ouais, je suis en couple, mais peut-être que ce sera pas le père de mes enfants, j'en sais rien. Enfin, on sait pas, quoi. Mais l'accouchement, les différentes manières d'éduquer les enfants...
C'est un sujet
pas.
Qui te passionne.
Ouais.
Mais pour toi, ou alors est-ce que tu penses que tu serais capable d'en faire ton métier, par exemple ?
Si, je crois que je serais capable d'en faire mon métier. C'est un peu ma réflexion du moment. C'est-à-dire que moi, j'ai fait L. J'étais pas nulle en sciences, mais c'était pas ce qui me passionnait, quoi. Sauf que les métiers, la maternité, l'accouchement, c'est scientifique, quoi. C'est médecine.
Bah ouais.
Il y a très peu. Il y a le métier de doula. Donc
ouais.
Là, en ce moment, je suis en train de réfléchir à ça. Mais j'essaye vraiment, en fait c'est un peu le drame de ma vie, c'est que je suis, enfin le drame, c'est-à-dire que je suis tellement curieuse que j'arrive pas là maintenant à trouver un métier qui réunisse tout ce que j'aime. Et donc j'ai pas envie de faire de choix.
Tu voudrais quoi alors c'est, donc t'aimes bien les langues c'est ça?
Ouais j'aimerais bien travailler l'anglais, apprendre l'anglais, enseigner, ça me passionne aussi, travailler avec les enfants ça c'est sûr. Dans le soin, dans la psychologie, je trouve ça trop intéressant. Donc il y a un peu tout ce côté-là, un peu enseignement, aide sociale, langue, enfant. Mais par exemple, prof, ça m'enlève un peu le côté psychologique. Et d'aide vraiment... Enfin voilà, enseignant, c'est cool, tu vois des enfants, mais tu peux pas aider qu'un enfant. Fin...
Et par exemple, aux États-Unis, moi j'avais eu cette... un peu ce ressenti-là au Canada que les profs étaient beaucoup plus des pas des, enfin ils avaient une, je crois qu'ils avaient une formation de psychologue, en tout cas au Canada. Enfin, pas de psychologue, mais de psychologie. Enfin, ils avaient dans leurs études. Et je trouvais que les profs étaient beaucoup plus à l'écoute que les profs en France qui s'en battent légèrement les steaks de toi, quoi qu'il arrive. Pas tous, hein, bien sûr, mais ils ont, enfin, ils ont moins ce truc de pédagogie. J'ai l'impression qu'au Canada, où en fait être prof était valorisé et du coup tu devenais pote presque avec tes profs et mm-hmm. tu leur parlais de tes problèmes, enfin je sais pas.
C'est le problème de la hiérarchie, je pense.
Ouais.
En France, on a cette hiérarchie, ce respect de l'adulte, alors qu'aux États-Unis, nous, je sais pas vous au Canada, mais nous les profs mettaient des photos de familiales quoi dans leur classe. Donc avant d'aller chez ma prof d'anglais, je savais déjà à quoi ressemblait son mari, à quoi ressemblait son bébé, ses parents. Et c'est vrai que ça c'est chouette parce qu'il y a vraiment cette ouverture de la part des profs et tu sais que si t'as un problème, tu vas te confier à ton prof quoi. Mmh. Et par exemple là, ma mère d'accueil, graduation, enfin ils ont des élèves qui ont eu leur année ma mère d'accueil a posté des photos de deux de ses élèves que je pense elle adorait cette année et donc sur son fil Instagram t'as les photos de ses élèves quoi.
C'est marrant,
ouais. Et elle dit oh là là ces deux élèves c'était les meilleurs, mais du coup il y a aussi ce truc que du coup ils sont très proches avec certains élèves mais du coup ils ont un peu, en fait c'est ça, c'est que parfois, du coup, ça manque un peu de neutralité parce que vraiment, là, tu sais, grâce à son fil Instagram, que ouais, c'était ses deux élèves préférés, quoi. Et je sais qu'elle les aime tous et que voilà. Mais en France, il y a ce côté-là aussi, je pense, de ne pas vouloir montrer trop d'affection pour un élève parce qu'on veut que tous les élèves se sentent bien, quoi.
Oui, oui, les chouchous sont pas trop aimés en France.
Ouais, non,
mais du coup, enseigner aux États-Unis, c'est pas un truc qui te ferait kiffer, par exemple?
Je sais pas trop, pas au Texas en fait. C'est, ça, le truc. C'est que les États-Unis, bon moi j'ai vu quelques autres États, mais j'ai vécu au Texas quoi. Et le Texas, ça me fait pas trop rêver, j'avoue.
Ouais. Grand que en fait, il y a des cultures différentes à l'intérieur des États-Unis. Enfin, ils sont tous très différents quoi, que taille sur la côte est ou que la côte ouest.
Ouais, je sais pas si je serais capable de vivre aux États-Unis, mais je sais que j'ai envie de vivre à l'étranger dans le futur.
Ouais.
Si c'est pas les États-Unis, ce sera autre part, mais...
C'est trop bien. Et du coup, là, t'es en prépa, c'est ça ?
Ouais.
Et alors, comment ça se passe ? Est-ce que ça se passe bien ?
Je suis toujours en vie. ça se passe bien. C'est un peu dur. Moi, je suis rentrée en prépa. Au lycée, j'étais la bonne élève, machin. Mais depuis le lycée, j'en ai un peu marre. D'être cette personne qui travaille tout le temps, qui a fait tous ses devoirs. Je dis pas non plus que j'étais parfaite, mais il y avait ce côté-là et j'ai commencé à en avoir marre en première terme. Et donc c'est pour ça que je voulais pas aller en prépa, sauf que comme je savais pas faire de choix, j'y suis allée quand même. Mais là, j'ai réussi, je crois, cette année à justement me détacher un peu de ça et me dire bah, je suis pas la première de la classe, mais c'est pas grave. Enfin, non pas que j'étais la première de la classe avant, mais je veux dire, je suis pas dans le top de la classe et c'est pas grave. Je travaille pas autant que je pourrais le faire et c'est pas grave parce que à côté, du coup, j'ai quand même gardé la danse, j'ai mes potes, j'ai mon copain et j'ai réussi à combiner un peu tout ça, ce qui fait que je pense aussi c'est pour ça que j'ai pas trop mal vécu cette année. C'était dur, mais ça s'est bien passé, donc je suis assez contente et j'arrive pas à en revenir. J'ai fait un an de prépa.
Bah ouais, c'est trop bien.
Ouais, je pensais pas en être capable.
Tu réempiles pour l'année prochaine ou
Ouais, j'ai été prise.
Ok, bah super, trop bien. Et donc après, j'imagine si t'es en prépa littéraire, tu vas passer l'ENS.
Ouais, t'es obligée. Donc là, je vais en SP anglais.
Ok, trop bien.
Et après, l'ENS, bah, c'est en avril, normalement, s'il n'y a pas de confinement l'an prochain, parce que là, ils sont en train de le passer cette semaine, la deuxième année. Mais l'ENS, je ne vais pas l'avoir.
Peu de gens l'ont, finalement.
Voilà, c'est
et
ça.
Et peu de gens veulent l'avoir aussi.
Dans mon lycée, il y en a souvent un ou deux par classe qui l'ont. Moi, je ne l'aurai pas. Après, quand tu passes le truc de l'ENS, tu peux aller en école, tout ça à côté. Mais moi, je ne sais pas ce que je veux faire. Comme je ne sais pas quel métier serait le mieux, je n'arrive pas à me décider. Donc, ce serait soit anglais, soit psycho.
Trop bien. Bah, en tout cas, c'est deux options super cool.
Ouais.
Et du coup, c'est quoi ta principale préoccupation vis-à-vis du futur, à part du coup ce questionnement sur ton futur perso ? Est-ce que bah typiquement, tu vois, tu me parlais que tu avais été vachement touchée par les attentats. Est-ce que voilà ce qui se passe en ce moment, t'en penses quoi? Est-ce que t'es sensible à l'écologie? Enfin, est-ce que qu'est-ce qui se passe dans ta tête par rapport au futur?
Mais justement, le futur, c'est un peu flou, c'est un peu compliqué. C'était ça aussi. Je pensais que avoir 20 ans, c'était savoir ce que tu vas faire, rentrer presque dans la vie active. Enfin, je pensais que ta voie était toute tracée, puis en fait, non, pas du tout. Depuis le collège, je sais à peu près ce que je veux faire et on me dit mais t'inquiète, tu sauras. Et là, ça fait 6 ans et je ne sais toujours pas.
Ouais.
Et mais en fait, je suis partagée entre, je suis assez optimiste et je sais que je vais réussir à faire des choses cool et que je vais faire des choses bien dans ma vie. Mais l'écologie, par exemple, ça m'inquiète un peu. Enfin, cette détérioration de la planète. Trump au pouvoir aux États-Unis, ça m'inquiète un peu aussi. Enfin, je trouve qu'on est une génération qui est très inquiète et que je crois qu'il y a des études là-dessus.
Parce qu'on en sait beaucoup aussi.
Mais c'est nous qui avons été les premiers à avoir à l'école primaire tout ça, des sensibilisations. Mais en fait, tellement de sensibilisations que moi, ça m'inquiète quand même beaucoup toutes ces problématiques-là. Donc j'essaye de me renseigner un peu partout, mais je crois que j'ai pas réussi à trouver mon cheval de bataille parce que j'ai l'impression que il vaut mieux faire une chose, enfin travailler pour une chose et vraiment aller jusqu'au bout plutôt que d'être un peu sur tous les fronts. Donc bien sûr, je fais ce que je peux pour l'écologie, mais j'ai pas trouvé le truc dans lequel j'ai vraiment envie de m'investir à fond pour approfondir. Voilà.
Bah en tout cas, pour l'instant, les enfants, ça te semble quand même.
Ouais. Oui. Mais c'est pareil, j'ai pas trouvé le comment travailler avec les enfants, que faire avec eux. Et il y a aussi ce truc de, on dit beaucoup maintenant. Les enfants, en fait, c'est ce qui pollue de faire des enfants.
Bah ouais.
Et donc là, tu dis, bah quand
qu'est-ce
même.
Qu'est-ce que je fais?
Et ouais. Puis l'adoption, c'est dur parce que les lois pour adopter, c'est super compliqué d'adopter. Vaut mieux être stérile ou voilà, pour pouvoir adopter, c'est vraiment. Et donc, c'est un peu compliqué aussi. Je me dis, alors, mais il ne faut pas que je fasse trop d'enfants. Mais comment je fais? Mais un peu compliqué.
Oui, bah oui, c'est sûr, c'est dur de se, en fait, comme tu dis, de se positionner dans ce monde où il y a tellement de problèmes et tellement de, t'as l'impression, tu sais, devant être un mur où il y a que des fuites d'eau et où est-ce que tu vas pouvoir aller boucher, quoi.
C'est ça, c'est exactement cette image-là.
Mais ouais. Et du coup, bon, pour finir, ce serait quoi ce que tu aimerais dire à l'ado que tu étais si tu l'avais devant toi?
Justement, j'ai écouté le dernier épisode et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais dire? Et justement, mais quand t'as posé cette question-là, parce que tu la posais à chaque fois je me dis, mais moi je suis toujours une ado en fait. Et j'ai pas l'impression d'avoir tant évolué que ça. Je crois que je dirais d'avoir confiance, quoi, parce qu'en fait, j'essaye de travailler sur la légitimité, mais j'ai jamais l'impression. Enfin, la prépa, par exemple, je pensais que les autres réussissaient, mais moi, que je réussirais pas. Passer mon permis, là, je viens de commencer, mais j'ai l'impression que tout le monde peut l'avoir sauf moi. Et je sais que c'est pas vrai, mais vraiment, il y a ce truc-là, je travaille dessus. Donc, je crois que je me dirais à moi-même que je suis légitime. Voilà. Et il y a une prof qui nous a dit faut pas avoir peur de travailler. Et je trouve ça cool parce que, enfin, travailler, là, c'était dans le cadre des études, mais pour tout, en fait, faut pas avoir peur de faire les choses. Et je crois que c'est un peu l'une des causes principales de la procrastination chez les adolescents, les adultes. C'est vraiment la peur. On est un peu paralysé, peur de pas bien faire. Bah non, en fait, vas-y.
Bah oui, c'est le perfectionnisme un peu qui est le danger qui va avec la procrastination, tu vois. Tu te dis, ouais, mais non, mais je veux pas commencer parce que de toute façon, j'y arriverai pas. Et puis, finalement, tu fais tout au dernier moment un peu à l'arrache. Et
c'est
voilà.
Ça.
Mais ouais, très belle morale. Merci beaucoup, Lila, d'avoir participé
à
Avant ton âge.
Merci à toi, auditrice, auditeur, d'avoir écouté cet épisode. Et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. Et si tu as 20 ans et que tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast@mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ». À bientôt dans 20 ans d'âge.